Il est 6h à Paris, 4h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Une nouvelle demi-heure d'actualité. Bonjour Simon Bourtembourg.
Bonjour Arthur, bonjour à toutes et à tous.
Et le journal, pour commencer, à la une, la frontière égyptienne en ligne de mire pour la caravane de solidarité pour Gaza.
L'Égypte, étape indispensable avant de rallier l'enclave palestinienne. D'autres délégations du mouvement de solidarité sont déjà arrivées au Caire dès le début de ce journal. Nous entendrons les témoignages de militants pro-palestiniens en route donc vers Gaza. Un calme précaire à Los Angeles où un couvre-feu est en vigueur pour la deuxième nuit consécutive, mais nous le verrons, les manifestations de soutien aux immigrés gagnent d'autres villes des États-Unis. Il avait été tué par balle dans le sud de la France le 31 mai dernier. Hicham Mirawi, victime d'un assassinat raciste, a été rapatrié en Tunisie où il a été inhumé. À la une de cette édition également, la première nomination d'un évêque chinois depuis l'élection au Vatican de Léon XIV. Et puis, Brian Wilson est mort hier, cofondateur des Beach Boys. Le chanteur et compositeur américain s'est éteint à l'âge de 82 ans. La Libye, avant de mettre le cap vers Gaza, des centaines de militants pro-palestiniens sont mobilisés dans un convoi terrestre parti de Tunisie. La caravane de solidarité doit parcourir donc l'est de la Libye avant d'entrer en Égypte. L'Égypte, où plusieurs Français venus participer cette fois à une marche internationale ont été interceptés hier à l'aéroport du Caire avant d'être relâchés. Il faut dire qu'Israël presse son voisin à bloquer ces militants pro-palestiniens en route vers Gaza. Des marcheurs qui, depuis la capitale égyptienne, prendront ensuite des bus direction la ville d'Al-Arish, à une cinquantaine de kilomètres de Rafah, le poste frontière avec Gaza. Alice Froussard, au travers de cette action, les organisateurs de la marche veulent faire pression pour que l'aide humanitaire entre dans Gaza.
Les ONG ne fonctionnent plus, les politiques ne font rien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde Gaza mourir ou est-ce qu'on se lève et on marche vers Gaza?
C'est cette seconde option qu'Hicham Al-Rawi a privilégiée. Le docteur, représentant de la branche suisse de cette initiative, s'est rendu à 3 reprises dans l'enclave côtière ravagée par les attaques israéliennes. Des missions humanitaires qui l'ont profondément marqué, qui lui ont laissé un sentiment d'impuissance, de frustration, mais surtout l'envie de créer une pression morale et médiatique internationale.
Cette initiative, elle est certes pour Gaza. Elle est certes pour un cessez-le-feu, mais derrière, il y a une autre intention, c'est de sauver les droits de l'homme. On y va pour sauver notre humanité. Moi, j'y vais aussi pour mes propres enfants, qui, eux, sont en Suisse. J'y vais aussi pour eux, parce que je ne veux pas qu'ils grandissent dans un monde où on voit ce genre de choses et on accepte.
Alors ces marcheurs, pacifistes, indépendants, apolitiques, non religieux et en soif de justice, qui ont tous payé leurs billets d'avion et leur nourriture, se donnent rendez-vous en Égypte. Leur objectif est d'arriver à Rafah après 3 jours de marche dans le désert, puis de camper et manifester, explique Samuel, l'un des porte-parole de la délégation suisse.
On va vraiment faire un maximum pour que ce soit pas qu'une opération médiatique, mais que les camions puissent rentrer.
Tous ont un mot à la bouche, la responsabilité de chacun pour, insiste-t-il, en finir avec ce conflit colonial qui les empêche tous de dormir.
Pour l'heure, dans l'enclave palestinienne, la distribution de l'aide a été attribuée par Israël à la Fondation humanitaire de Gaza, une organisation opaque au procédé critiqué avec laquelle l'ONU refuse de travailler. Et ce matin, cette Fondation humanitaire de Gaza affirme que cette nuit, au moins 5 de ses membres ont été tués et plusieurs autres blessés. Une attaque décrite comme violente et attribuée par le Hamas, par l'organisation qui précise que les employés visés étaient tous palestiniens. Quelques heures plus tôt, la défense civile de Gaza annonçait cette fois la mort de 31 personnes. Les forces israéliennes auraient là ouvert le feu sur des civils en quête d'aide humanitaire. Après Los Angeles, les manifestations gagnent d'autres villes aux États-Unis. Un calme précaire règne donc dans la Cité des Anges, notamment à la suite du couvre-feu décrété la nuit dernière dans le centre de la ville entre 20h et 6h du matin, heure locale. La Californie est peut-être la première, mais il est clair que cela ne s'arrêtera pas là, avait averti Gavin Newsom, le gouverneur de ce bastion démocrate. Eh bien, les rassemblements de soutien aux immigrés se sont en effet étendue à plus d'une vingtaine de villes dans l'ensemble des États-Unis, avec un dénominateur commun, le drapeau du Mexique, porté à bout de bras par les manifestants qui en ont fait un étendard des droits des immigrés aux États-Unis. Vincent Sourio.
Vert, blanc, rouge, avec en son centre les armes du Mexique. Un aigle dévorant un serpent. Si cette bannière a surgi dans les rassemblements, sur les photos, si elle est brandie face à la police, c'est parce qu'un tiers des habitants du comté de Los Angeles, plus de 3 millions de personnes, a du sang mexicain et que depuis des générations, ce drapeau incarne la lutte des sans-papiers contre les restrictions migratoires. C'était déjà le cas dans les années 1990, après le vote d'un texte poussé par des organisations d'extrême droite qui interdit disait aux clandestins l'accès au système de santé et d'éducation. L'emblème du Mexique, les manifestants en font un objet de fierté, mais son omniprésence exaspère l'administration Trump. Stephen Miller, le monsieur immigration de la Maison Blanche, conseiller à la sécurité nationale, emploie une rhétorique incendiaire. « Regardez-moi tous ces drapeaux étrangers, Los Angeles est devenu un territoire occupé », écrit-il sur les réseaux sociaux. « Avec la police aux frontières, nous menons un combat pour sauver la civilisation. »
Et alors que la politique migratoire répressive de Donald Trump est plus que jamais critiquée, le Kosovo annonce accueillir prochainement jusqu'à 50 migrants expulsés des États-Unis. Pristina cède ainsi à une demande de Washington. Il s'agit d'un moyen pour l'exécutif kosovar de montrer la reconnaissance éternelle du pays envers les États-Unis, qui ont toujours soutenu l'indépendance de cette ancienne province serbe. À Belgrade, la correspondance de Laurent Ruy.
Le Kosovo est le premier pays des Balkans à accepter des migrants expulsés des États-Unis. Si aucun détail n'a pour l'instant été révélé, le premier ministre du Kosovo précise que le petit pays, l'un des plus pauvres d'Europe, se réserve le droit de choisir ses migrants parmi une liste proposée par les États-Unis. La nouvelle confirme des révélations parues dans la presse nord-américaine plus tôt ce mois-ci qui faisaient état de pression de Washington sur des pays d'Europe du Sud-Est, dont le Kosovo, la Moldavie et la Serbie, pour accepter des migrants. Interrogé, le ministre serbe des Affaires étrangères avait refusé de confirmer ces informations. Notons que les États-Unis ne sont pas les seuls à vouloir transférer des migrants dans les Balkans. L'an dernier, l'Italie inaugurait un centre de rétention pour migrants illégaux en Albanie, tandis qu'en mars, l'Europe ouvrait la voie à la création de centres pour migrants hors de ses frontières, avec les Balkans en ligne de mire. Des politiques critiquées par l'organisation Human Rights Watch. Laurent Ruy, Belgrade. RFI.
L'actualité africaine en bref avec des marches de contestation annoncées un peu partout au Nigeria ce jeudi. Le mouvement Take It Back organise ses manifestations pour protester contre les difficultés économiques et sécuritaires qui frappent des dizaines de millions de Nigérians. Toujours sur le continent, une semaine après les élections des députés et conseillers municipaux au Burundi, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé hier après-midi les résultats provisoires des législatives au cours d'une cérémonie officielle à Bujumbura. Le CNDD-FDD au pouvoir depuis 2005 a remporté plus de 96% des voix exprimées. On revient sur les résultats de ce scrutin dans le journal Afrique de 4h30, temps universel. La France en deuil ce jeudi. Une minute de silence doit être observée à midi, heure locale, dans tous les établissements scolaires du pays. Un moment de recueillement à la demande de la ministre de l'Éducation Elisabeth Borne en mémoire de la surveillante tuée mardi devant un collège par un élève de 14 ans. Lui avait été victime d'un assassinat raciste, toujours en France. C'était le 31 mai dernier. Hicham Mirawi, de nationalité tunisienne, avait été tué par balle à Puget-sur-Argent, dans le sud du pays. Son corps a désormais été rapatrié en Tunisie, où il a pu être inhumé. Reportage signé Lilia Bless.
Les pleurs de la mère et des six sœurs d'Hicham Mirawi témoignent d'une douleur encore très vive, 10 jours après la mort de leur proche. Cela faisait 8 ans qu'il n'était pas rentré en Tunisie. Sa sœur, Hanen, est venue de France pour accompagner le corps de son frère.
Il était loin de notre mère, mais on se parlait sans arrêt avec les frères et sœurs, lui et maman. Notre mère est malade et il souffrait de ne pas la voir pendant tout ce temps. Et là, il rentre au pays dans un cercueil. Vous trouvez ça normal ?
Son frère Adel explique qu'Hicham Mirawi aidait sa mère financièrement. Et faute de papiers en règle, il n'avait pas pu rentrer en Tunisie pour l'enterrement de son père 3 ans plus tôt.
Pendant longtemps, c'était la galère. Il devait faire des allers-retours entre l'Italie et la France. Mais là, il avait enfin pris un avocat depuis plusieurs mois et s'était mis en règle. Il avait lancé la procédure pour la carte d'identité et avait prévu de rentrer nous voir cet été.
Sa cousine Mouna, qui vit en France, craint en tant que binationale la suite de ce crime.
Moi-même, j'ai été victime d'actes racistes par des paroles, etc. Mais j'aurais jamais cru que ça puisse en arriver là. Parce que maintenant, je me dis que ça peut me toucher à moi, mes enfants, mes cousins, mes cousines.
Après avoir emmené le corps à la mosquée pour une prière funéraire, les proches d'Hicham l'ont inhumé dans le cimetière à proximité, en fin d'après-midi. Lilia Blaise, Kérouan. RFI
6h10 à Rome, midi 10 à Pékin. Nous revenons à présent sur cette nouvelle illustration des relations fructueuses entre le Saint-Siège et les autorités chinoises. Le Vatican a en effet annoncé hier la première nomination d'un évêque chinois, et ce depuis l'élection de Léon XIV. Le pape américain s'emploie donc à poursuivre un accord conclu en 2018 entre la Chine et le Saint-Siège, et ce malgré les vives critiques exprimées au sein de l'Église. À Rome, les détails avec Éric Sénanc.
Dans un bref communiqué, le Saint-Siège s'est félicité que la nomination de l'évêque auxiliaire de Fuzhou ait été validée par les autorités chinoises. Un nouveau fruit du dialogue avec Pékin, a précisé le Vatican, en référence à l'accord de 2018 signé entre la Chine et le Saint-Siège sur la nomination des évêques. Un accord renouvelé deux fois depuis, la dernière fois en octobre dernier. Cette nomination est la première sous le pontificat de Léon XIV et montre la volonté du nouveau pape de s'inscrire dans les pas de son prédécesseur, malgré les nombreuses critiques au sein même de l'Église. Sous François, ses plus farouches détracteurs ont toujours dénoncé une faiblesse du Vatican face au régime communiste chinois, imprévisible. Fin avril, Pékin avait nommé deux évêques durant la période de vacances apostoliques à Rome, après la mort du pape François et avant le conclave. Situé sur la côte non loin de Taïwan, le diocèse de Fuzhou est l'un des plus importants de Chine avec près de 300 000 fidèles. Âgé de 73 ans, Mgr Joseph Yin Lun Tuan secondera l'archevêque de la ville qui lui a été nommé à la tête du diocèse au mois de janvier dernier. Éric Sénanc, Rome, RFI.
Il s'est éteint à l'âge de 82 ans. Le chanteur et compositeur américain Brian Wilson est mort hier. Cofondateur des Beach Boys, il fut notamment l'un des orfèvres des mélodies et des arrangements du groupe mythique des années 60. Les Beach Boys, tout comme les Beatles de l'autre côté de l'Atlantique, ont joué un rôle crucial dans l'évolution de la musique pop à travers les années. Les deux formations s'observaient d'ailleurs mutuellement. Une rivalité dont nous parle Rémi Boiteux, journaliste au magazine Les Inrecuptibles.
Brian Wilson avait cette envie de faire mieux que les Beatles, comme les Beatles, en retour, avaient envie de faire mieux que les Beach Boys. Ça a été vraiment deux groupes qui se sont nourris, au-delà de la rivalité, mais de l'admiration qu'ils pouvaient avoir les uns pour les autres. On a beaucoup parlé de la rivalité entre les Beatles et les Rolling Stones. D'un point de vue peut-être commercial et médiatique, c'était tout à fait exact. Mais d'un point de vue purement artistique, je pense que la grande rivalité des années 60, elle a été entre les Beatles et les Beach Boys. Il n'y aurait peut-être pas eu Sgt Pepper s'il n'y avait pas eu Pet Sounds. Aujourd'hui, bon, allez, Bob Dylan est peut-être complètement hors concours, mais de cette époque, nous restait Paul McCartney et Brian Wilson. Ça permet de mesurer la perte que l'histoire de la pop subit aujourd'hui.
Rémi Boiteux, joint par Edmond Sadaka du service culture de RFI.
Simon Bourtembourg.
RFI à 6h13 ici à Paris, une heure de moins à Moscou. En cette journée de fête nationale russe, nous nous intéressons ce matin à la mainmise du Kremlin sur les productions culturelles dans le pays. Théâtre, cinéma et jeux vidéo, rien n'échappe au pouvoir russe qui use de tous les moyens pour diffuser ses messages. Avec notre correspondante à Moscou, nous verrons aussi comment le Kremlin s'attache à museler les œuvres critiques à l'égard de la guerre menée par la Russie en Ukraine. De la musique aussi à suivre dans quelques minutes. Des airs de rail à la sauce électro avec notre invité. Sami Galbi vient de sortir un premier album. Dans moins de 10 minutes, l'artiste suisso-marocain est donc au micro d'Olivier Roger. Et puis, comme chaque matin, à suivre dans quelques instants, votre conseil santé. En Russie, le pouvoir russe utilise donc tous les moyens pour diffuser ses messages. Les médias et le domaine de la culture n'échappent pas à la mainmise du Kremlin. Théâtre, cinéma, littérature, partout, l'accent est mis sur ce que Vladimir Poutine continue d'appeler l'opération spéciale en Ukraine. Pour l'instant, Anissa El Jabri, ces productions contrôlées par le Kremlin peinent à attirer un autre public que celui déjà convaincu.
Dans la capitale russe, à Saint-Pétersbourg, mais aussi Kazan et jusqu'à Irkoutsk ou Novosibirsk en Sibérie. Cette année, chaque grande ville ou moyenne de Russie a vu se jouer dans ses théâtres au moins une pièce dite patriotique, vantant l'effort de guerre de l'armée russe en Ukraine, héroïsant les soldats. Sur le grand et petit écran, on peut aujourd'hui voir des films comme ça, le premier modèle du genre. Une histoire d'amour qui se déroule pendant le siège de Mariupol, tourné dans la ville même, présentation sur la première chaîne de télévision de Russie.
Le spectateur voit de lui-même la bataille presque tous les jours à la télévision et sur Internet. Certaines scènes du film reprennent littéralement des images de reportage. Voici un char russe résistant à un tir de lance-grenade. Et voilà presque la même scène dans le film. Pour plus d'authenticité, des participants à l'opération militaire spéciale ont été invités au tournage. Rinat Yassinolev a non seulement joué l'un des rôles principaux, mais a également coécrit le scénario. C'est un combattant du légendaire bataillon d'assaut Somalie qui se bat depuis 2014.
Sorti en salle l'année dernière, le film n'a pas explosé le box-office. Au contraire, les Russes continuent à préférer s'évader et regarder des comédies ou des films romantiques. L'audience a du mal à dépasser le cercle des convaincus. Écoutez cette critique d'art.
Le point de vue extrême et très patriotique trouve un débouché artistique, mais je ne vois pas encore une véritable forme d'art. Pour l'instant, ce ne sont que des tentatives. Elles ne sont pas toutes professionnelles. Il y a des films, souvent réalisés à toute vitesse. On voit bien, par exemple, ce qu'on appelle la poésie Z. Mais dans ce domaine, il n'y a tout simplement pas de bons poètes.
La qualité insuffisante est souvent invoquée par ceux qui revendiquent ne pas être intéressés. D'autres refusent ces productions comme ils refusent la guerre lancée par le Kremlin en Ukraine, avec parfois des petits gestes, comme celui de cet étudiant cet hiver. Il a laissé un commentaire sur le site internet d'un théâtre de Moscou critiquant la présence de la lettre Z, symbole de l'invasion russe de l'Ukraine, sur sa façade. Il a mis plusieurs mois à se décider à répondre à la demande d'interview de RFI via cette note vocale.
Je pense que la guerre en général est quelque chose de mauvais et que celle-ci en particulier est indigne. Donc je n'irai plus jamais dans ce théâtre tant qu'un Z y est suspendu et je n'irai dans aucun théâtre qui soutient publiquement l'opération spéciale. Je pense que se rendre dans un tel théâtre est un soutien indirect. Je ne monterai pas non plus dans un bus avec la lettre Z. Je sais bien que dans la situation actuelle, il est extrêmement difficile de ne montrer aucun soutien, que tout le monde est sous une pression folle, mais je pense que n'importe quel théâtre peut quand même se permettre de ne pas accrocher une énorme lettre Z sur sa façade.
Il y a 3 semaines, Vladimir Poutine a ordonné, avec une date limite au 30 novembre prochain, la création d'un lieu à Moscou tout entier dédié à promouvoir, je cite, le théâtre patriotique moderne. Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
On l'entend donc dans ce reportage, le pouvoir russe investit beaucoup dans la culture pour inculquer les valeurs qu'il considère comme patriotiques. Les jeux vidéo prisés des plus jeunes n'échappent pas à cette règle, mais nous l'entendions, les résultats sont à ce stade encore très mitigés. Et il faut le dire, le paysage culturel russe est aussi fait de productions, cette fois critiques à l'égard du gouvernement et de la guerre menée en Ukraine. Anissa, justement, comment le Kremlin s'attache à museler ses œuvres critiques?
Eh bien, les autorités ont méthodiquement procédé. En 2022 et en 2023, elles ont visé toutes les têtes des grandes institutions culturelles connues à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, une direction jugée pas assez favorable au pouvoir et à sa décision d'envoyer ses soldats en Ukraine. Et c'était le changement avec des figures dont la loyauté aux yeux de tous ne pouvait faire aucun doute. À la tête de grands musées, on retrouve par exemple aujourd'hui des personnalités réputées proches ou carrément issues des services de sécurité, parfois. Certains d'entre eux siègent tout simplement au conseil d'administration. En tout cas, le verrouillage est désormais total. Quant aux artistes critiques, beaucoup de ceux qui n'ont pas fui sont derrière les barreaux. Et pour la critique, le champ est large, très large. Prenons par exemple le cas de la metteuse en scène Evgenia Berkovitch et de sa dramaturge Svetlana Petrychuk. Elles ont été condamnées en juillet dernier à quasiment 6 ans de colonie pénitentiaire par un tribunal militaire, motif apologie du terrorisme, en cause officiellement leur pièce de théâtre intitulée Le Faucon.
Il faut rappeler que ces deux artistes ont toujours clamé leur innocence, mais au fond, Anissa, que raconte cette pièce ?
Eh bien, écoutez, elle raconte l'histoire de Russes recrutés sur Internet par des islamistes en Syrie et partant les rejoindre pour les épouser, soit, et c'était toute la défense des artistes, l'inverse de ce qu'il aurait reproché. Et du reste, cette pièce, saluée par la critique, saluée par le public, avait reçu en 2022 deux masques d'or. C'est la plus prestigieuse récompense du théâtre russe. Écoutez ce qu'en pense cette personnalité du monde culturel russe et notamment de la metteuse en scène en personne.
Le problème est qu'elle n'était pas capable de se taire sur aucun sujet. Evgenia a toujours dit que le théâtre ne pouvait pas être en dehors de son temps, en dehors des événements. Que si le théâtre ne parle pas de ce qu'il se passe dans le monde, au moment où ça se passe, alors cela signifie qu'il n'est pas honnête. Aujourd'hui, les gens qui ne veulent pas ou qui n'ont pas la possibilité de partir ou de changer de profession, s'ils disent quelque chose, le disent par leur créativité et ils le disent de la manière la plus allégorique possible. Malheureusement, il y a maintenant un partage entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Beaucoup de gens qui sont partis ont commencé à reprocher à ceux qui sont restés, leur disant « vous avez cédé ». Je pense que ce n'est pas vrai, qu'il y a toujours des options, qu'il y a une différence entre se taire et faire profil bas.
L'expression artistique sur la guerre en Ukraine aujourd'hui en Russie, eh bien c'est celle de ceux qui la soutiennent. Pour les autres, une des nombreuses personnes rencontrées au cours des reportages que vous venez d'entendre a eu cette expression. Elle appelle ça la zone de silence.
Anissa El-Jabri, correspondante de RFI à Moscou. Merci beaucoup. Notre invité ce matin est musicien et chanteur, disco, pop, rail ou encore électro. Voilà tous les styles que Sami Gadbi mêle dans son premier album, révélé sur la scène des trans musicales de Rennes en 2023. L'artiste suisso-marocain a sorti le mois dernier Yalla Bye Bye, un album qui fait le lien entre ses racines africaines et sa culture d'adoption européenne. Sami Gadbi au micro d'Olivier Roger. شوف خزاري ما نختاش بينبا ولا مامام سمن ولا خواسون حوا ولا آدان انا شوفا
Bonjour Sami Gadbi.
Bonjour Olivier.
Yalla Bye Bye, votre premier album est sorti le mois dernier, un album qui vous ressemble, à cheval sur deux continents, l'Europe et la Suisse où vous êtes né d'un côté, l'Afrique et le Maroc de l'autre, d'où viennent vos ancêtres. Alors plus qu'une fusion d'influences, on a le sentiment d'un perpétuel balancement entre ces deux cultures.
Je pense que beaucoup de choses que je raconte dans mes morceaux parlent d'aller-retour, d'échanges entre deux parties de mon identité, de lieux sociaux, de communautés, de sociétés, et aussi cette dualité qui est souvent décrite comme quelque chose de parfois incompatible, et moi que j'essaye de rendre compatible, donc il y a de ça. L'album s'appelle Yalla Bye Bye, donc il raconte le départ, mais il raconte aussi le retour, et j'avais pas beaucoup de temps pour le faire, donc c'était aussi un peu ça, Yalla Bye Bye. On met tout ça dans la boîte, on termine ça et on envoie au mix. Puis bon, il y a aussi la question de l'identité hybride.
Elle transparaît dans votre musique, cette hybridité de l'identité.
Oui, je pense que c'est un peu malgré moi aussi parce que c'est moi. Il y a des choses que j'aime dans ces deux cultures. Après, sans forcément les essentialiser non plus, dans le sens que autant au Maroc qu'en France ou en Suisse, bon, il y a de la techno partout, des mouvements politiques, militants, queer, antifascistes dans les deux. Enfin voilà, pour moi c'était intéressant de faire rencontrer aussi ces deux milieux. Donc j'ai pu inviter aussi des amis musiciens marocains du groupe Kabaré Chichat l'année passée. Ils sont venus en Suisse. On a fait toute une créa avec eux. Et puis avec Inès Mouzoun qui m'accompagne maintenant dans le live band, productrice, pianiste bulgare et marocaine qui est basée à Genève. Elle, c'est une nerd des synthés, une très bonne musicienne, et eux apportaient tout leur répertoire, tout leur savoir aussi plus ancestraux sur les textes, sur plus l'aspect théâtral aussi de la haïta, du chabi marocain.
Alors du rail, de la haïta, plus de la dance music, et comment fait-on pour assembler tout cela? Est-ce que ça vous vient spontanément?
Je pense qu'il y a une certaine spontanéité qu'il faut garder. En tout cas, bon, dans ce projet-là, j'avais vraiment envie de faire une musique dance et une musique électronique. Moi, je viens plutôt de la musique acoustique de base et de la musique band, donc groupe de rock, de funk, de blues. Donc le switch, pour moi, ça a été de... C'était presque un truc... Il y avait une forme de jouissance dans le fait de pouvoir mettre des grosses basses, des gros kicks là-dessus et donner de la rondeur et élargir aussi le spectre des fréquences et d'avoir un truc un peu plus agressif, un peu plus club en fait. En étant vraiment libre, j'avais envie d'aller dans le kitsch, j'avais envie d'aller dans l'ultra agressif, fat, grosse basse, je pouvais aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui fait du bien artistiquement dans le processus de création.
Merci beaucoup Sami Galbi.
Sami Galbi qui se produit ce jeudi dans le sud-ouest de la France, à Toulouse, sur la scène du festival Rio Loco.
Le conseil santé avec Suno Assurance.
Comme tous les jours, votre conseil santé aujourd'hui avec Raphaël Constant et cette question, comment lier problématiques environnementales et problématiques de santé.
Romain Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cadre de santé dans les services de réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Larry Boisière à Paris. Romain Fontaine, aujourd'hui, comment les hôpitaux peuvent faire entrer les problématiques environnementales dans leur structure?
Ben justement, aujourd'hui, je trouve que c'est tout un enjeu des hôpitaux qui ont une part majeure dans l'impact environnemental sur la société, parce que je trouve qu'avant, on était beaucoup dans le curatif, on traitait les patients, sans prendre vraiment conscience que l'hôpital, lui, pouvait avoir un impact sur la société. Et donc, plus ça va, plus les hôpitaux en prennent conscience, et le tout est de s'engager collectivement et organiser une structure qui permet de prendre des décisions et trouver des orientations qui permettent justement de réduire cette empreinte écologique et aussi de faire rentrer la citoyenneté au sein de l'hôpital, parce que forcément on travaille avec des professionnels qui eux font des choses chez eux et l'intérêt est de les reproduire à l'hôpital.
Et alors dans cette même réflexion, comment sensibiliser du coup les soignants à transformer leurs gestes et leurs pratiques?
Et bien justement en leur faisant prendre conscience que c'est possible, parce que justement moi j'ai bien évidemment initié cette démarche au sein de mon service. Et au début, à l'initiation du projet, il était, ce qu'on me disait davantage, c'était « mais c'est pas possible, l'écologie à l'hôpital, ça n'a pas sa place, parce qu'on est là pour soigner avant tout ». Et donc la sensibilisation et la réalisation des soignants du fait que c'est possible de le faire a été une part très importante. Et justement la sensibilisation par moi, une formation que j'ai pu avoir sur l'écologie, et montrer par des actions simples au début que c'était possible et quel est l'intérêt aussi.
Qu'on peut rendre l'hôpital plus vert. Oui. Merci Romain Fontaine pour ces éclairages. Tout à l'heure dans Priorité Santé, émission consacrée à l'albinisme, à la veille de la journée mondiale de sensibilisation à cette maladie qui se tient tous les ans le 13 juin. Rendez-vous à 9h10 temps universel.
RFI océanise ses playlists à l'occasion du sommet des océans qui a lieu à Nice. Ce jeudi matin, les programmateurs de RFI Musique vous proposent le titre « La mer de la Grande Sophie ».
Les cheveux dans le vent, les deux pieds dans le sable, on regarde l'océan, on regarde les vagues, la mer. Rien n'est plus puissant quand le soleil dort sur la mer. On reste devant les yeux grands ouverts.
Le titre titre La mère de la grande Sophie, à retrouver en playlist RFI Musique. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde dans une demi-heure, le début d'RFI Matin. Mais avant ça, dans une minute maintenant, ce sera place à l'actualité africaine.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
L'image comme engagement, c'est la première grande exposition consacrée à Marie-Laure de Decker. Photojournaliste, portraitiste, témoin des bouleversements de la deuxième moitié du XXe siècle, une tranche d'histoire dans son objectif, à voir à la Maison européenne de la photographie.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair,
du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Ce jeudi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Nouveau bras de fer entre la Hongrie et l'Europe. Le Premier ministre Viktor Orban veut faire passer sa loi sur les agents de l'étranger afin de mieux contrôler la presse indépendante et les ONG. Bruxelles demande le retrait d'un texte contraire aux valeurs de l'UE.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI.